Interview.
2 jours.
Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie d'Annabelle Marant et de Georges-Henri Ducreux, dont on peut dire qu'ils sont mari et femme, même si les patronymes sont différents. Ils vont me le confirmer puisqu'ils sont en face de moi, qui ont donné donc vendredi dernier, c'est-à-dire le 24 juin, pour vous qui écoutez cette interview, on se sera peut-être un peu décalé dans le temps, donc le 14 juin, c'était vendredi, oui, et qui nous ont donné une conférence très passionnante, donc vous pourrez écouter à la suite de cet entretien, qui a pour titre « Histoire de la géologie, évolution des idées sur la genèse de la Terre ». Bah, comme d'habitude, et comme vous en avez l'habitude maintenant, enfin deux fois l'habitude, donc de très bonnes habitudes, avant d'écouter cette conférence, bah, rencontre avec Annabelle et Georges-Henri pour faire connaissance. Toujours intéressant de savoir qui vous allez écouter et d'où viennent-ils. En tout bien, tout honneur, je vais commencer par Annabelle, qui sourit devant moi, c'est très bien. Toujours intéressant de savoir l'itinéraire. Alors l'itinéraire, il vient de loin, hein. Donc je commence par toi, ton itinéraire, au plus loin que tu souhaites remonter.
Bonjour, donc mon itinéraire donc de géologue en l'occurrence démarre par une passion simplement parce que j'ai grandi dans les Basses Alpes avec donc ces montagnes qui naissent et qui sont très tourmentées dans la région de Digne et les reliefs aussi particuliers très géométriques de la vallée de la Durance qui m'ont fascinée et j'ai donc eu cette envie de devenir géologue, vraiment, c'était mon souhait et ceci a été vraiment renforcé par la chance que j'ai eue en classe de quatrième d'avoir un professeur de biologie géologie, Arlette Granoux, qui d'ailleurs se reconnaîtra si elle entend l'émission, et qui m'a transmis le virus d'une certaine façon. Après, le parcours n'a pas été forcément simple puisque pour une femme, c'était pas tout à fait le métier auquel on pense. Donc j'ai été découragée par différents profs ou différentes situations. Et après avoir fait finalement un cursus de sciences beaucoup plus dures, essentiellement mathématiques, physiques, je suis revenue à mes premières amours et j'ai découvert que le métier de géotechnicien, qui est donc la géologie appliquée à l'aménagement, à la construction, j'ai découvert que ce métier existait et qu'en fait il était fait pour moi. Donc j'ai pu concilier ma formation et ma passion.
Un itinéraire déjà fort intéressant où l'école tient sa part, donc dans le cas d'Urgenry.
Pour ma part, donc j'ai fait des études à l'Institut National Agronomique, poussé par le milieu familial. En fait, mon père était polytechnicien et il m'a dit ne fais pas polytechnique, je me suis ennuyé. Il m'a poussé à faire des études qui étaient plus proches de la nature. Mais en fait, ma véritable vocation était d'être pianiste. Et donc, au cours de mes études, j'ai commencé à étudier la pédologie, donc les sols. Et en fait, je me suis aperçu que ça ne m'intéressait pas beaucoup et j'ai changé d'option en cours de route et de façon à pouvoir me livrer à ma passion, le piano. Donc pendant que j'étais à l'agro, je faisais plus de piano que de sciences, on peut dire. Et ensuite, pendant les années qui ont suivi mes études, que j'ai considérées non pas dans un but professionnel, mais finalement uniquement pour avoir une culture générale, j'ai fait pendant 4 ans du piano à outrance. Et pour vivre, j'ai d'abord été régisseur d'une troupe de théâtre, et puis j'ai donné des cours de mathématiques et et puis de physique. Et à cette époque-là, je vivais de ces cours. Et puis finalement, je trouvais que je ne me réalisais pas complètement dans cet équilibre. Et j'ai croisé un géologue qui habitait à Digne. Et puis, je lui ai proposé sur un coup de tête de travailler avec lui, puisque j'avais quand même des connaissances en sciences du sol. Il a accepté et j'ai découvert, un peu comme Annabelle, un métier qui n'est pas connu, qui s'appelle la géotechnique, qui est en fait de la géologie appliquée au génie civil, mais qui fait appel pratiquement à toutes les sciences. C'est-à-dire que, comme tous les élèves pendant mes études, je me disais à quoi ça sert ce qu'on fait. Et en réalité, ce domaine, la géotechnique, fait appel à tout ce qu'on peut étudier à l'école. C'est-à-dire, on a besoin des mathématiques, de la physique, de l'anglais pour lire les publications, on a besoin de la biologie, on a besoin de la géographie, etc. En fait, c'est un domaine ultra complet. Donc au départ, je suis devenu empiriquement, on va dire, et au contact d'un collègue géologue qui était par ailleurs très très compétent, je suis devenu géotechnicien. Mais au départ, c'était comme petit boulot pour pouvoir faire du piano à côté. Mais progressivement, je ne pense pas qu'on puisse faire de la géotechnique comme petit boulot, parce qu'il y a des responsabilités énormes. Si vous étudiez des ponts ou des immeubles, il faut qu'ils tiennent debout. Donc j'ai dû me former en lisant les ouvrages classiques de géotechnique, en allant, en fréquentant les professeurs de géologie de Marseille, qui avaient été ceux de mon collègue. Et donc petit à petit, je suis rentré dans cette discipline que je n'ai pas pu faire à moitié, en fait. Et mon collègue est parti aux Antilles faire de la géologie appliquée à l'archéologie. En fait, il a fait des cartes d'archéologie des Antilles. Du coup, j'ai fondé mon propre bureau d'études. J'ai eu rapidement des études de cartographie de risque. J'ai pu étudier donc en particulier les risques de gonflement retrait d'argile, et ça a attiré l'attention du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui m'a proposé de travailler avec lui sur les méthodologies de cartographie de ce risque, pour d'abord dans le 04 qui a servi de modèle, et puis ensuite on a mis au point une méthodologie qui sert maintenant dans toute la France. Et puis progressivement, mon bureau s'est développé, donc j'ai eu de plus en plus d'études, de travail dans ce domaine. Et en 2002, j'ai rencontré Annabelle, qui m'a paru extrêmement compétente, et je me suis dit, c'est l'occasion d'en faire un peu moins, de pouvoir refaire du piano à mi-temps. Mais en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que Annabelle a donné un coup de pouce à mon bureau, on l'a transformé en société, on a eu des employés, des machines, etc. En fait, et on a fini par faire des milliers d'études de sol dans toute la région, ce qui fait qu'on a, je pense, une très grande connaissance des terrains, par l'expérience de toute la région du Sud-Est. Et puis petit à petit, à cause de cette compétence, on a pu proposer nos services aux tribunaux qui nous donnent des expertises. Donc on est tous les deux inscrits sur les listes de la cour d'appel, pour elle de Grenoble et pour moi d'Aix-en-Provence. Et puis en expertise administrative, elle à Lyon et moi à Marseille. Voilà, donc on a un parcours un peu, comment on peut dire, de self-made mad, mais qui fait que on a, comment on peut dire, l'impression qu'on peut avoir, c'est d'avoir rattrapé par un autre biais les connaissances qu'on peut peut-être avoir plus simplement par un parcours universitaire classique. Mais quand on prend...
Je me permets de t'interrompre justement, parce que ça m'intéresse d'avoir, à travers ce que tu viens de dire et ce que vient de dire Annabelle, un petit peu votre sentiment, parce que chez moi c'est souvent un dada. de savoir aujourd'hui comment vous voyez l'école au sens large, je dirais, on ne va pas partir de la primaire, mais on pourrait presque, jusqu'au niveau universitaire. Est-ce que les possibilités telles qu'elles vous avez vécues et l'itinéraire que tu es en train de décrire, en l'occurrence Georges-Henri, est-ce que de votre point de vue, il est encore envisageable aujourd'hui? On a l'impression, en tous les cas moi de l'extérieur, que tout ça se resserre terriblement et qu'il faut vraiment se spécialiser, puisque tu pars véritablement d'un désir, le piano, pour arriver à quelque chose où il y a un jeu parallèle. Il y a le piano qui est toujours là, mais aussi une activité plus professionnelle. Votre sentiment sur cet univers-là, si tant est que vous êtes peut-être comme moi, simplement spectateur de la situation?
Alors, concernant spécifiquement la géologie, c'est une réponse un petit peu à part, parce que pour devenir géotechnicien aujourd'hui, même si certaines formations ont commencé à se mettre en place, on continue de constater que... le parcours nécessite un tel panel de connaissances que c'est un petit peu compliqué de le couvrir, de couvrir toutes les connaissances nécessaires avec un parcours universitaire classique. C'est intéressant pour le métier que nous faisons d'avoir eu une formation vraiment de sciences dures ou d'ingénierie, parce que c'est indispensable, parce que le travail au final c'est quand même essentiellement du calcul et de la prescription, donc c'est obligatoire. Mais on se rend aussi compte que les étudiants qui auraient fait un parcours justement plus génie civil, même si c'est orienté géotechnique, conservent des carences importantes par rapport à l'approche naturaliste du terrain. Donc c'est un métier qui nécessite presque de s'être fait tout seul, en tout cas d'avoir nourri une très grande curiosité personnelle pour compléter ce que peut nous apporter le parcours universitaire. Après, d'une façon plus générale, c'est difficile d'avoir un avis sur l'école. Bon, pour moi, ça a été... je pense avoir eu un parcours un peu compliqué. J'avais des... une certaine aptitude à l'école, donc ça avançait bien. Donc au final, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait. Je peux juste considérer que... c'est quand même par mon souhait à moi que je suis arrivée à faire quelque chose dans lequel j'ai réussi à m'accomplir, et que si j'avais un peu trop écouté les profs ou les conseillers d'orientation, je ne serais pas du tout là. Et à chaque fois qu'on a essayé de me pousser dans certaines voies, c'était des choses dans lesquelles je ne me reconnaissais pas du tout. Donc le diagnostic qui était fait entre mes compétences scolaires et la projection sociale qu'on faisait pour moi pour avoir un métier ne me paraissait pas adapté. Alors après, est-ce que ça vient de l'école, est-ce que ça vient de moi? Peut-être que j'avais uniquement le caractère pour avoir un parcours très, très personnel. Hein. Ça, je pense que ça dépend complètement des gens.
Concernant l'école, je dois dire que je m'y suis ennuyé d'un bout à l'autre de ma scolarité. Mais je reconnais que j'ai fait des classes préparatoires au lycée Henri IV à Paris. Bon, je me souviens de la première appréciation de mon prof de maths en maths sup, ne s'est toujours pas aperçu qu'il était en classe préparatoire. Bon, c'était et je l'énervais au plus haut point, parce que je pouvais être... très bon un mois et puis mauvais le mois suivant. Enfin, ça dépendait de mon investissement, et bon, ça la rendait un peu dingue. En revanche, aujourd'hui, dans notre bureau, on prend souvent des stagiaires qui ont un niveau soit licence ou souvent master, et on peut constater que, d'une part, ils en savent pas plus que nous, sans doute, enfin en général loin de là. Mais surtout, ils ont un rapport à la réalité qui fait un peu peur. Enfin, on a l'impression que la géologie se résume à savoir manier des logiciels et éventuellement créer des cartes ou des plans, mais informatiquement, sans aucune notion des conséquences que peuvent avoir les études qu'on fait. Et ça, c'est un petit peu effrayant, je trouve. Le lien avec la réalité me semble rompu, en tout cas à travers les stagiaires qu'on peut avoir assez, assez régulièrement. Donc l'aller-retour avec la réalité est indispensable, je pense, si on veut exercer un métier qui est en partie concret. La géotechnique C'est une science qui participe à l'aménagement du territoire. Si vous décidez qu'une zone est inconstructible, d'une part, on ne pourra pas construire dessus, mais d'autre part, le terrain ne vaudra plus rien, donc vous pouvez ruiner des gens. Inversement, si vous décidez qu'elle est constructible, et ça, en fait, un seul trait de crayon le suffit pour le décider. Vous pouvez laisser construire des bâtiments sur des terrains qui, par la suite, vont glisser et également ruiner des gens. Donc, il faut quand même se poser la question des conséquences de ce qu'on fait dans ce métier et ne pas le faire abstraitement. Et l'expérience qu'on a à travers les stagiaires qu'on prend, c'est que les conséquences des décisions, en général, semblent leur échapper. Enfin,
bon. Pour faire un biais par rapport à ce que vous dites, est-ce que, de par le fait, on n'est pas rentré dans une sorte de société algorithmique ? C'est-à-dire où des gens se disent, je donne des informations à un logiciel qui va déterminer un peu des risques potentiels. Alors ça ne veut pas dire les algorithmes ne sont pas performants, mais à travers ce que vous dites, j'entends qu'il y a une science du terrain, une approche du terrain par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je suis né proche de, je voyais ceci et j'en ai déduit que cela pouvait être quelque chose qui m'intéressait. C'est-à-dire une approche, pas uniquement technique, mais une approche peut-être aussi historique, sociologique, philosophique éventuellement, hein, de marier différents univers pour arriver à avoir une lecture telle que tu le dis, qui ne prend pas en compte uniquement effectivement ce que serait un bassement en calcul, qui sont bien sûr nécessaires, je pense. Enfin, je m'exprime peut-être incomplètement, mais je vous laisse compléter.
Moi, le mot qui me vient là en t'écoutant, c'est la question de la curiosité. Parce que la curiosité va pas être, je pense, ne sortira pas d'un ordinateur ou d'un calcul. C'est peut-être ce qui ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle, je ne sais pas. En tout cas, c'est une approche. Enfin, est-ce que c'est une approche ? En tout cas, c'est une ouverture qui permet de considérer différentes facettes d'un problème et ensuite de choisir une voie, une démarche, peut-être pour aller vers un calcul. Mais il est certain que de faire un raccourci direct, j'ai besoin de telles données pour faire tel calcul, donc je me borne à trouver ces données et donc j'obtiens un résultat, mais on se rend bien compte, par exemple avec certains stagiaires qu'on a pu avoir, mais même dans des cas beaucoup plus concrets professionnels, qu'on peut obtenir des résultats totalement aberrants avec une personne qui a fait la procédure de manière complètement correcte et ne se rend pas compte que le résultat est aberrant parce que justement il n'y a pas eu l'approche personnelle, la considération du problème de façon vaste et non pas uniquement en termes de calcul. Et j'ai en effet le sentiment qu'on va de plus en plus dans cette voie. En tout cas, qu'on ne se rend pas compte que cette voie est aussi dangereuse et ne se suffit pas à elle-même, même si elle est utile. Et c'est quand même une direction qui est prise. Alors, de mon expérience personnelle, moi, j'ai vu, notamment quand je cherchais à définir et à me lancer dans une thèse, on m'a souvent orienté vers des sujets comme ça qui faisaient beaucoup appel à l'informatique. À l'époque, j'ai eu l'impression que c'était aussi une question de budget, parce que c'est facile de mettre un étudiant devant un ordinateur. Enfin, en tout cas, c'était un petit peu ce que j'ai compris à l'époque. Peut-être que j'ai pas tout saisi les enjeux, mais envoyer par contre un géologue pendant 3 ans sur le terrain avec une voiture, aller même au camping, etc. Ça coûte de l'argent, c'est beaucoup plus difficile à gérer pour une université. Je sais pas quels sont exactement les ressorts qui font qu'aujourd'hui on va vers ce tout numérique, mais différents facteurs font qu'on y va et je crois vraiment qu'on n'en voit pas suffisamment les conséquences.
Georges-Henri.
Alors, quand on essaye de recruter des personnels, alors déjà une parenthèse, c'est que on a un mal fou à recruter du monde. On a trop de travail, mais on ne trouve personne pour le réaliser. On a besoin de personnes de terrain pour faire des sondages. On a besoin aussi d'ingénieurs pour faire des rapports. Et en fait, on ne trouve pas, même bien qu'il y ait...
C'est le cas des collègues aussi.
Et on n'est pas les seuls, ouais, bien qu'on ait 8 millions de chômeurs. Alors, quand on essaye de recruter, on propose à des gens qui ont Bac plus 5 de faire un plan à différentes échelles pour voir s'ils maîtrisent la notion d'échelle. C'est déjà souvent, ils ne passent pas cette première épreuve. Et ensuite, s'ils arrivent à faire un plan au 200e ou au 500e, on les envoie dans la cour essayer d'implanter des piquets ou mettre un rond de peinture correspondant sur le terrain au point qu'ils ont tracé sur la feuille, donc à une certaine échelle. Et là, c'est en général le drame parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire le passage du plan à la réalité est pratiquement insurmontable. Donc, ils nous expliquent qu'on ne leur a pas appris, ils n'ont pas appris ça. Mais Annabelle et moi, personne ne nous a appris à planter des piquets dans un terrain, en fait. C'est-à-dire que je pense que la limite du système scolaire, il est là. C'est-à-dire que dans la vie, il y a énormément de choses qu'on ne peut apprendre que par soi-même. Donc, si on revendique toute sa vie d'être formé et qu'on refuse de faire les choses pour lesquelles on n'a pas été formé, je pense que c'est une impasse. Parce que c'est un monde qui n'existe pas, en fait. Il faut se former par soi-même, moi, c'est ma conviction. Et je crois que l'école induit les jeunes en erreur en leur faisant croire qu'à partir du moment où ils ont un diplôme, ils ont une valeur, ils sont commercialisables et que d'une certaine façon, ils sont arrivés, quoi. Et non, la vie commence là et à eux ensuite de faire un effort personnel et de se former par eux-mêmes et de combler leurs lacunes. Et ça, je crois que c'est une idée qu'on ne rencontre pas.
Ce que tu as dit, Annabelle, me touche souvent, parce que c'est aussi un petit peu l'idée quand même des rencontres de luxe, c'est de se dire, offrons la possibilité aux curieux de franchir une porte et de venir découvrir un domaine comme le vôtre, qui moi je m'étais complètement étranger, et avec effectivement, quand on y réfléchit, tout un tas de questions, mais qu'on n'aura certainement pas l'occasion de pouvoir évoquer ici, parce qu'elles sont tellement vastes, mais de se redéfinir en tant qu'individu, les deux pieds sur ce qu'on appelle la terre, et se dire qu'on ne sait pas sur quoi on a les deux pieds. Je me pose la question de savoir si les outils que l'on possède, mais je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, c'est que les outils qui nous sont offerts, à nous, mais aussi aux plus jeunes, ne nous enferment pas dans ce qui, justement, dans une manière, dans une sorte de prêt-à-penser. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les choses qui sont proches de nous, mais on ne va pas aller se déranger d'une certaine manière avec un sujet qui nous paraît vraiment trop lointain, trop étranger et inintéressant. Juste avoir votre sentiment sur ce sujet.
Oui, c'est vaste hein, comme question. Je pense que on est victime de l'immédiateté de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et que ce sentiment qu'on peut avoir tout de suite fait que ça tue un petit peu la curiosité. Il faut du temps pour être curieux parce que on ne sait pas en fait. Il faut avoir l'idée que ce qui est important c'est de chercher et puis on trouvera. Si on doit nous dire d'abord tu vas trouver ça, cherche, déjà il n'y a pas forcément quelqu'un qui va vous dire ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à vous, donc dans un parcours personnel qui serait juste mu par notre propre volonté, ça ne fonctionne pas. Voilà, je pense que c'est nous ne sommes pas dans une société qui favorise la curiosité et aussi finalement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la communication plus généralement entre les personnes qui est difficile. Du coup, on a peu de chances de tomber subitement sur un sujet qu'on ne connaît pas. On va croiser quelqu'un. À la limite, on pourrait dire, en attendant le bus... à l'abribus, pendant un quart d'heure, il y a quelqu'un qui est à côté de nous, on va engager la conversation, puis on va découvrir que cette personne travaille sur des choses extraordinaires. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, pendant qu'on est un quart d'heure en train d'attendre le bus, en général, on est branché sur notre téléphone portable. Donc, je crois que c'est en effet peu propice aujourd'hui à développer une curiosité, une pensée personnelle et finalement un chemin personnel. Et moi, je félicite de toute façon l'initiative des rencontres de Luc et toutes ces types d'initiatives qui se retrouvent dans certains cafés associatifs aussi aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on revienne vers ça parce que je pense qu'on va vers un appauvrissement par manque d'opportunités, ce qui paraît paradoxal parce qu'on a l'impression d'avoir tout à portée de main aujourd'hui, mais presque il nous manque d'ouvrir les yeux, quoi.
Moi, je citerai mes deux modèles dans mon existence, c'est mon père et son frère. Donc, mon père était un surdoué, il a toujours été premier de sa classe, il a passé son bac à 15 ans et demi, il est rentré à l'école polytechnique, il a été ensuite, après différents postes, il a enseigné 7 ou 8 matières différentes dans une école d'ingénieurs. Enfin, quand il manquait quelqu'un, on lui demandait de remplacer, donc il a enseigné la résistance des matériaux, la topographie, la géologie, l'entomologie, il connaissait tous les insectes parfaitement, etc. Bon, la botanique, etc. Une école d'ingénieurs des eaux et forêts. Et son frère, qui était un cancre fini, c'est-à-dire son frère a eu son certificat d'études au bout de la troisième fois. Il était totalement anti-système. Il est devenu prêtre ouvrier, mais comme il avait remplacé entre autres les cierges par des fusées de feux d'artifice dans une cérémonie, on lui interdit d'officier. Et il a monté un bureau d'études qui s'appelait le BERU, un bureau d'études d'urbanisme, qui est devenu un gigantesque bureau à l'époque, dans les années 60-70, qui était le bureau d'études d'urbanisme en France. Et il a donc finalement grâce à ça, il s'est mis à enseigner à la Sorbonne. Et un jour, il y a quand même un collègue qui lui dit, mais au fait, tu as quelle formation? Il dit, ben moi j'ai le certificat d'études. Et donc on lui a dit, bon, il faudrait peut-être régulariser ça. Et on l'a conseillé de commencer une thèse. Il a commencé une thèse qu'il n'a jamais finie. Alors, je trouve que les deux parcours sont intéressants parce que le parcours de mon père, c'est le parcours classique où finalement, on a un savoir, on a une position sociale, mais on ne développe pas forcément sa propre personnalité. Et mon oncle, qui lui a choisi de ne s'en sortir que à la force du poignet, mais qui finalement a rejoint la société. Parce que je pense que si on n'est que marginal, comme moi j'ai voulu un peu l'être quand j'avais 20 ans, au final, à 40 ans, on est toujours intérimaire où on fait les boulots de base en étant frustré et toujours revendicateur. Donc à un moment donné, les deux parcours doivent se recouper parce qu'il faut à la fois utiliser les institutions parce que le savoir est là et en même temps, si on ne fait pas soi-même, si on ne comprend pas que notre vie nous appartient et non pas n'appartient pas à la société, nous appartient à nous, chaque individu, arrivé à 85 ans, on s'apercevra qu'on est passé peut-être à côté de sa vie.
Et je me dis que ça pose aussi dans nos sociétés. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ces trajectoires, qu'elles soient, je dirais, classiques ou extraordinaires, ça donne des personnalités qui sont importantes dans la société et qui ont une place et qui ont une capacité de faire du lien, de faire du dialogue. La curiosité, et ce que vous venez de dire, m'incite à penser que c'est aussi la trajectoire du bien vivre ensemble, du bien commun. De la parole qu'on échange, du respect mutuel que l'on doit avoir pour une parole, si tant est que cette parole ne soit pas celle qui est la nôtre, c'est-à-dire d'une capacité d'écoute. Je suis plus un sentiment que j'exprime, et de savoir si ce sentiment nous est commun.
Oui, je crois que si on fait un chemin personnel, que ce soit professionnellement ou d'une façon plus vaste, on se heurte à ses limites, on se heurte à parfois des manques de capacité, de volonté, mais on a aussi des résultats et je crois que en ayant cette image de soi comme quelqu'un qui n'est pas absolu, qui n'est pas dans la certitude de ce qu'on lui a appris, voilà, je possède des recettes et donc je suis parfait, je suis bien implanté dans la société. Au contraire, en ayant une vision un peu plus de doute sur ce qu'on est, on est fatalement beaucoup plus ouvert à la personne qu'on va rencontrer en face de soi, parce qu'elle aura aussi eu ses recherches, ses doutes, et on ne va pas simplement heurter deux mondes qui sans aspérité pour se raccrocher l'un avec l'autre. Même dans les domaines plus spirituels, hein, les personnes comme les moines, par exemple, ou bon, les personnes qui ont fait un chemin spirituel ont aussi rencontré les doutes et bien souvent sont très tolérants face à ceux qui ont des idées beaucoup plus arrêtées, voire contre la religion. Donc il n'y a pas de véritable barrière. Je crois que du moment qu'on cherche à s'améliorer, à expérimenter, à progresser dans sa vie, on est forcément bienveillant vis-à-vis d'une personne qui serait en face de nous et qui aura fait le même chemin. Ce qui est certainement beaucoup plus inhibiteur pour les relations entre les gens, ce sont les parcours tout tracés où on dit à quelqu'un, ben voilà, toi t'es très bon là-dedans, on te conforte là-dedans, on te donne un diplôme, et puis après on te donne un poste, et puis un gros salaire, etc. Et puis bon, après on est sûr de soi, et comment s'ouvrir aux autres, parce que si on ne se connaît pas soi-même d'une certaine façon, quelle curiosité peut-on avoir envers une personne qu'on va rencontrer? Il me semble que c'est lié.
La question des relations humaines est une question d'écran qu'on met ou qu'on met pas entre soi et les autres. Si et donc ça rejoint la question de l'identité. Si on commence par classer l'autre en fonction de son diplôme, de sa profession, de ses revenus, etc., on crée autant d'écrans qui vont peut-être empêcher d'avoir un accès direct. Enfin, je pense qu'avant tout, on est des êtres humains, tous. Et ensuite, pour moi, par exemple, le diplôme de la personne ne correspond pas à son identité, à sa personnalité. C'est pas à travers ça que je vais échanger avec lui. D'ailleurs, dans notre métier, on voit des gens qui ont toutes sortes de parcours, des centraliens, des géologues naturalistes, etc. Enfin, il y a toutes sortes de parcours. Et au bout de 30 ans de pratique, ça s'est décanté. Enfin, le diplôme initial ne veut plus dire grand-chose, en fait. C'est finalement le nombre de terrains qu'on a investigués qui fait la compétence de la personne. D'ailleurs, pour revenir à mes deux modèles, mon oncle disait « Moi, j'ai pas de diplôme, mais je suis compétent. » Donc, je pense qu'il avait raison. Il a été recensé la population de Kinshasa. Il a mis au point des méthodes sophistiquées et statistiques de recensement d'une ville d'un million d'habitants. Il avait développé une vraie compétence et par sa réflexion personnelle, trouvé des solutions à des problèmes qu'il n'avait jamais étudiés. Et je crois que ça peut être un modèle pour tout le monde parce que chacun peut s'en sortir s'il considère que sa vie dépend de lui.
Ben pour clore cet entretien, et je vais faire, on va venir à la musique, très simplement, mais à travers quelque chose que j'ai vu, l'apprentissage de la musique en milieu scolaire. Mais au-delà de ça, je prends cet exemple parce que c'est pour faire réagir là-dessus, de prendre une classe, de la faire des non-musiciens, de les faire travailler pendant 6 mois, à peu près 6 mois, et qui, au bout du compte, forme un orchestre qui va jouer à Radio France avec les musiciens professionnels. Et il montre, puisqu'on là il y a un rapport très intéressant qui est de montrer que les enfants, grâce à la musique, ceux qui étaient agités se calment, ceux qui étaient lointains reviennent à l'essentiel, si je suis bien dit, et que le travail de groupe, curieusement, rend les individus responsables d'eux-mêmes, les individualise potentiellement. Donc, d'une certaine manière, je voulais vous faire agir sur la vibration de la musique, parce que je crois qu'aussi dans la géologie, la vibration existe. On doit s'en servir un petit peu, non?
Alors, juste un petit aparté sur l'orchestre, parce que il me semble que c'est l'image de l'homme accompli dans la société, parce qu'il faut à la fois s'exprimer individuellement, mais si vous vous exprimez indépendamment de votre voisin dans l'orchestre, évidemment, ça fait une cacophonie au final. Donc je crois en effet que c'est très très formateur de faire de la musique et de jouer dans un orchestre, peut-être de la même manière que de faire un sport d'équipe. Alors après, qu'est-ce que la musique apporte au quotidien? Ben, je rebondirai sur ce que j'ai dit précédemment. Pratiquer la musique, c'est aussi rencontrer des doutes, ses limites. Il y a des jours où ça marche très très bien, on ne sait pas pourquoi, on se dit ça y est, c'est bon, et puis le lendemain, c'est une catastrophe. On n'est pas du tout satisfait de ce qu'on fait, donc... c'est aussi un parcours personnel. Bon, en plus de l'ouverture qui, pour moi, va vers quelque chose d'assez universel, voire spirituel. C'est toujours un peu compliqué de mettre un mot là-dessus, mais on peut se rendre compte lors de certains concerts qu'on peut établir une sorte de communication totale entre toutes les personnes du public et les interprètes. Bon, après, la pratique de la scène en elle-même, bah, que ce soit en musique ou dans d'autres domaines, hein, le théâtre, etc., évidemment, facilite la capacité à communiquer, par exemple, à faire une conférence. Donc, pour moi, c'est très riche. Voilà, c'est en effet quelque chose qui s'ajoute à une construction personnelle. Donc moi, j'ai pas eu de parcours suffisamment professionnel en musique pour pouvoir aller dans cette voie, même si vers l'âge de 17-18 ans, c'est vraiment la voie que j'aurais choisie si ça avait été possible, si j'avais eu un petit peu plus les clés nécessaires pour rentrer dans ce milieu. J'ai quand même continué à nourrir cette discipline, parce qu'elle était essentielle, hein, aussi. Je crois qu'à un moment donné, quand on est vraiment musicien, c'est simplement vital, en fait. Donc la question se pose pas, c'est pas juste ça, j'aurais aimé mais j'ai pas pu. Non, en fait, si vraiment on voulait, peut-être qu'on va pas jouer avec l'orchestre de Monte Carlo, c'est pas grave, on va se contenter de faire des concerts caritatifs dans la région ou je ne sais quoi. Bon, mais en tout cas en pratique.
Moi, je dirais que les deux branches de notre vie se sont rejointes, parce que nous avons rencontré un magistrat, Sylvain Bottineau, qui a d'abord été pianiste avant de faire des études de droit et de devenir magistrat, qui a monté une association grâce à laquelle il organise des concerts dans les bâtiments des cours d'appel en France. Et donc, on l'a rencontré, et grâce à lui, on a pu jouer dans le palais de la cour d'appel de Lyon, dans celui de Montpellier, d'Aix, etc. Et en général, on joue devant des personnes du monde de la justice. Et à Lyon, on a joué dans la salle même où il y a eu le procès Barbie. Et après le concert qu'on a donné, des gens de l'assistance sont venus nous trouver en nous disant, vous savez, ici, il ne se produit que des drames. Tous les jours, on n'a que des drames. Et vous êtes venus apporter une éclaircie, effacer en fait pendant quelques heures ces drames humains qu'on côtoie en permanence. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en effet, ils devaient voir la vie uniquement à travers les procès auxquels ils étaient confrontés. Et le pouvoir de la musique, c'est en quelque sorte d'exorciser ces drames et de revenir dans une autre dimension qui est plus que l'instant présent. C'est une espèce d'absence de temps, finalement, et qui permet de se déconnecter de tous les soucis de la vie quotidienne. Et cette anecdote m'a frappé, parce que je me suis dit que c'était très important de faire ça, et qu'on ne sait pas ce qu'on peut apporter aux gens. On croit qu'on va apporter... de la poésie mise en musique, la mélodie française. Et ils vont être touchés ailleurs, on ne sait pas, et ça ne nous appartient pas, en fait. Voilà.
Je trouve que c'est une très belle conclusion à cet entretien, et ça donnera, je suis convaincu, le désir des personnes qui viennent de vous écouter, d'aller vous écouter à nouveau de la conférence. Voilà, eh ben, merci à Annabelle, merci à Georges-Henri, et je vous dis à l'année prochaine, non pas l'année 2020, mais à la saison prochaine, puisque les Rencontres Luc se poursuivent dès le 11 octobre, puisque nous accueillerons Denis Lachaud, qui est un écrivain. Voilà, vous aurez toutes les informations qui vous parviendront au fur et à mesure du temps. Bon été à tous et à très bientôt.
Interview.
Ok, de belle.
L'interview du jour.